pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir et bien...
Alors je sais pas si on t'entend, en tous les cas, moi je ne t'entends pas très bien, mais c'est pas grave. Comme tu le disais, je le répète, si jamais les auditeurs n'ont pas entendu, on va revenir sur le raisin, qui est un des centres de notre activité économique ici à Reims, où est réalisée cette émission de l'Égrégore, et où malheureusement... certains d'entre nous se font exploiter dans ce secteur. On va y revenir parce que, comme tous les ans, on a eu notre petit scandale qui va bien habituel et qui a fait s'émouvoir les milieux autorisés. Mais cette année, on a quand même assisté à quelque chose de particulièrement atroce. Puisque en moins de 7 jours, ce sont 5 personnes qui sont décédées de près ou de loin pendant ces vendanges.
Alors, qui ont eu lieu en pleine canicule, rappelez-vous quand même.
Ouais, c'est ça. Il y en a au moins 4 dont le décès est forcément lié à leurs conditions de travail. Un dont les causes de la mort restent à éclaircir, puisque c'est un jeune qui a fait un malaise et qui est tombé d'un enjambeur, un engin agricole, un engin viticole. Donc à ce stade, les circonstances, en tous les cas les causes de la mort, n'ont pas été complètement élucidées. Le parquet... a lancé une enquête pour homicide involontaire, mais ça nous paraissait intéressant de revenir là-dessus parce que on a vraiment là pour le coup sur le champagne qui fait partie des industries du luxe l'exemple parfait de ce que Marx appelait dans son livre 1 du Capital le fétichisme de la marchandise. Alors partez pas tout de suite, hein, on va pas non plus faire que de la théorie, hein, rassurez-vous, ça va aller très vite au niveau du marxisme ce soir. Le fétichisme de la marchandise, en fait, c'est une contradiction que le relève Marx en estimant, en démontrant dans son livre Le Capital, dans cette section-là, que par leurs relations sociales, les objets que nous fabriquons, ils prennent une valeur en eux-mêmes, une valeur intrinsèque qui est totalement déconnectée d'une part de leur valeur d'usage, c'est-à-dire de pourquoi on s'en sert, et puis même de leur véritable valeur marchande. Et cette valeur, ce fétiche, cette valeur fétiche, elle en devient tellement importante qu'elle masque, qu'elle recouvre les rapports sociaux qui ont abouti à la création, à la fabrication de cet objet. Et pour le coup, l'industrie du luxe, elle correspond véritablement à cette définition. C'est-à-dire que l'industrie du luxe, elle est en général, mais pas tout le temps, basée sur des savoir-faire, hein, des savoir-faire qui sont parfois le plus souvent, mais pas tout le temps, je le répète, artisanaux. qui ont été captés, qui ont été organisés par un capitaliste, par un patron, et qui ensuite se transforment par leur relation sociale dans laquelle est immergé c'est les objets qui sont fabriqués, ces objets du luxe, et aussi par la publicité et par ce qu'elle véhicule, en quelque chose de totalement différent de ce que c'était auparavant. C'est ainsi que on peut vendre des sacs à main qui coûtent quelques dizaines d'euros véritablement à fabriquer, plusieurs milliers d'euros, ou des vêtements qui ne coûteraient que quelques centaines d'euros, ce qui est déjà pas mal, me direz-vous, mais tout de même, plusieurs dizaines de milliers d'euros, etc., etc. Et le champagne, c'est totalement inclus à l'intérieur de cette définition. En effet, le plus grand producteur de champagne en France, c'est LVMH, Louis Vuitton Mouet Hennessy, propriété de Bernard Arnault, le français le plus riche, comme vous le savez. Et l'industrie du luxe, en tous les cas la fabrication du luxe, c'est un pilier de l'économie française, puisque c'est son deuxième secteur de rentabilité et d'exportation, après, tadam, évidemment, ben les armes, hein, parce que quand même, on est français, nom de Dieu, bordel. Donc voilà, cette petite introduction un peu théorique, pour justement rappeler que derrière ces bulles, derrière ces sourires, derrière ces joies ou ces bourgeois plutôt qui consomment du champagne, derrière le coût de cette bouteille qui a évidemment augmenté depuis des années et devient aujourd'hui assez rare, hein, de trouver du champagne à moins de 12 euros la bouteille, en commerce, et encore, ça doit pas être super bon, mais bon, voilà. Et ben, il y a une réalité sociale, et il y a une réalité sociale qui est parfaitement mesurable, notamment dans notre région, mais ça vaut aussi pour d'autres régions où il y a du vin qui est produit dans des conditions similaires, hein, on pense au Grand Cru du Bordelais. Elle est parfaitement mesurable parce que elle se concentre notamment durant la période des vendanges, où en quelques jours, en moins de 15 jours en général, ce sont aux alentours de 100 000 personnes.
120 000.
Ouais, alors, je dis 100 000 parce que c'est une moyenne. Mais il n'y a pas que des vendangeurs dans les 100 000. T'as aussi des gens qui viennent conduire les bus. J'ai même vu des traducteurs cette année. Chez Mouette et Chandon, avec des chasubles marqués traduction dessus, et avec le logo Mouette et Chandon. Parce que faut quand même leur parler à ces gens-là, même s'ils comprennent pas toujours notre langue, parce que forcément, la plupart du temps, ce sont des bougnoules étrangers, hein, qui viennent pour cueillir les raisins. Les Français, eux, ont bien compris que c'était terminé le temps des vendanges où c'était la fête et où on s'amusait, et en plus, on pouvait se faire un billet. Alors, voilà, en cours de cette période de 15 jours, ce sont, je reprends ton chiffre, donc 120 000 personnes, qui vont venir travailler dans un peu plus de 319 communes. Il y aurait entre 319 et 330 communes qui relèveraient de l'appellation champagne. C'est pas énorme, hein. On peut tout à fait imaginer un contrôle ou en tous les cas une prise en charge à l'intérieur de ces communes, bah, dans des conditions de travail qui sont la plupart du temps assez dégueulasses. Dans des encadrements et dans des moyens de travail qui eux aussi sont on va dire très très flous, puisque d'une part il y a un manque d'information total sur les droits des travailleurs à cette époque. Il y a évidemment une problématique, c'est qu'il y a un certain nombre, ce n'est pas la majorité, hein, mais il y a un certain nombre de personnes qui viennent travailler, qui sont en situation irrégulière. Et puis, évidemment, il y a la barrière de la langue, et il y a le fait que ce type de population est pas forcément, alors souvent les travailleurs saisonniers, hein, aussi, est pas forcément la plus à même d'aller vers la demande d'informations et de droits. Alors, ce qui a relativisé, en fait, parce que lorsqu'on discute avec eux et qu'on est en capacité d'apporter une information claire, solide, on a des gens qui sont intéressés et qui quand même le prennent. Et puis donc, cette population qui ne sera là qu'une quinzaine de jours, évidemment, elle n'intéresse pas ni les syndicalistes, qui ont déjà fort à faire avec les conventions et les droits des travailleurs dans les maisons de champagne, et elle intéresse surtout pas les viticulteurs d'une part et leurs représentants d'autre part. Alors cette année, on avait quand même quelques indices hein, qui pouvaient nous laisser penser que on allait avoir quelque chose de particulier. Alors premier indice. C'est que depuis une vingtaine d'années, les vendanges sont de plus en plus tôt,
ouais, tout à fait.
En lien avec le dérèglement climatique. À titre d'exemple, au cours du XXe siècle, on avait réalisé les vendanges en août 5 fois. Et depuis 2001, on a fait les vendanges en août 5 fois. Les données du SGV, donc du Syndicat Général des Vignerons, qui est la corporation, le lobby qui organise les viticulteurs et les vignerons et qui est véritablement tout puissant sur la profession, avait déjà des indices dès le début du mois d'août, puisque le 3 septembre, à l'occasion d'une conférence de presse pour présenter les perspectives de la vendange et de l'organisation de la filière, on sentait déjà qu'on commençait un peu à sécher les babines, puisque étant donné le mois d'août particulièrement intéressant et le mois de septembre, donc des températures assez fortes et un ensoleillement, on savait que la récolte allait être énorme, avec un point moyen de grappe très important, et on avait déjà anticipé une vente pour cette année et l'année prochaine d'environ 300 millions de bouteilles, ce qui est un record historique, puisque depuis 10 ans, les ventes sont en progression, à part évidemment le creux de l'année 2020 où il y a eu le confinement et le Covid. Et on sait que plus il y a de raisins, ben plus il y a de travailleurs, plus il y a d'enjeux, plus il y a de fric, et plus il y aura de la merde, plus il y aura évidemment de l'exploitation, puisque les travailleurs, ben, ils se parlent aussi. Ça leur arrive, et quand on sait que il y a de l'argent un peu à se faire en travaillant à la tâche, et quand il y a beaucoup de raisins, ben il y a beaucoup plus de monde qui viennent, qui font le choix de prendre le risque de venir. Donc évidemment cette ambiance là, elle pouvait nous laisser penser qu'on allait avoir évidemment un scandale comme celui dont tu vas parler, un Elf-le-Pont, mais il n'y a pas eu que celui-ci. Et puis, une interrogation sur les manières dont on allait travailler. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, alors que le 13 septembre, le président du SGV, Maxime Toubard, et ses affidés du bureau du Syndicat Général des Vignerons nous ont fait un acte de contrition publique, hein, en déplorant les décès, je le rappelle, hein, 5 décès en 7 jours. 5 personnes mortes dans les vignes en 7 jours, qu'il a affirmé qu'il allait mettre tout ce qu'il pouvait en œuvre pour que la responsabilité collective elle soit posée et qu'il y ait des mesures qui soient prises. On soulignera juste que Maxime Toubard et son équipe, hein, le bureau du SGV, entament son 4e mandat. Ça fait donc presque 10 ans. Qui sont à la tête du SGV, et qu'on voit pas pourquoi si ça entrait en ligne de compte, au cours de ces 10 dernières années, pourquoi miraculeusement ça arriverait au cours de ces 2 prochaines années. Et d'ailleurs on a des indices hein, là-dessus, hein, on voit très bien, hein, par exemple il y a un stand traditionnel à la foire de Chalon, hein. Au mois d'août, hein, il y a la foire de Chalon qui est la grosse foire. Au mois de septembre, hein, du 1er au 11. Il y a la grosse foire et il y a le Vitef aussi, le salon des viticultures. Évidemment, hein, vous aurez tout ce qu'il faut sur les organisations professionnelles agricoles, tout ce qu'il faut sur l'Office du tourisme, tout ce qu'il faut sur l'INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité. Par contre, vous n'aurez rien du tout sur les droits des vendangeurs, rien du tout sur le droit du travail, rien du tout sur l'organisation du boulot et comment on a le droit de bosser. Idem pour le Vitef, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez en termes d'offres d'emploi. Alors là, ça va y aller, hein, y a pas de problème. Par contre, hein, pour l'information sur les travailleurs, vous pouvez aller voir ailleurs si vous y êtes. Alors, On va nous arguer que c'est complexe, hein, parce que les gens, ils sont un peu partout et tout ça. Il me semble pourtant que depuis quelques années, on a notamment sur Épernay, hein, qui est la grosse ville où ça va se passer, mais il n'y a pas que, mais il y a ça, hein, y a Reims aussi, hein, mais il n'y a pas que, il y a un système d'organisation, de centralisation des offres d'emploi à l'intérieur d'un pôle emploi Vendanges qui est particulièrement ouvert, spécifiquement durant cette période, ouais. Qui était auparavant juste à côté de la gare, mais qui maintenant a été délocalisé à quelques centaines de mètres de la gare. On pourrait très bien imaginer que juste à côté de ce pôle emploi, il y ait aussi, par exemple, une permanence des syndicats ou une permanence du SGV qui liste, entre guillemets, les mauvais clients et qui conseille et qui recueille les témoignages et qui puisse répondre justement aux questions des gens, parce que souvent les gens ils vont être confrontés assez rapidement aux mauvaises pratiques des prestataires et aux mauvaises pratiques des vignerons, donc s'ils peuvent changer, s'ils peuvent partir, ils vont pas se priver de le faire, mais ils ne savent pas ce à quoi ils ont droit d'une part, et puis d'autre part ils ont aucun soutien, aucun relais. Alors je vais terminer en disant que le week-end du 8, 9, 10 septembre, on a atteint des températures assez incroyables pour un mois d'octobre, puisque on a eu des mesures à 34 degrés le vendredi. Et je n'ai pas de mesure officielle, mais moi j'ai travaillé le dimanche 10 septembre, pardon.
Septembre, c'est septembre.
Et on a eu une mesure à 36 à 14h. Autant vous dire qu'il n'y avait pas grand monde dans les vignes. Alors, pour notre malheur, on avait un rapport de force suffisant à l'intérieur de notre équipe de vendangeurs pour pouvoir gérer notre travail comme on le voulait. Mais ça n'a pas empêché une de nos collègues qui n'était pas dans cette équipe-là, mais qui était dans une autre, de faire un malaise et d'avoir la nécessité d'une assistance respiratoire par les pompiers à l'intérieur des vignes. C'est vous dire quand même les conditions dans lesquelles on bosse. Alors, on reviendra peut-être sur ça dans la deuxième partie de l'émission. Toi, tu voulais plus particulièrement nous parler, on va dire, d'un grand classique,
l'hébergement,
d'une part, et puis d'un grand classique, la découverte de travailleurs sans papier qui se sont fait gruger, quoi.
Ouais. Alors, au niveau des travailleurs sans papier qui se sont fait gruger, c'est classique, mais ça a pris de l'ampleur, je trouve. Hein, puisque il fut un temps où c'était beaucoup de l'Europe de l'Est, hein, polonais, bulgares. Là, ça a été jusqu'à des Africains, beaucoup d'Africains, beaucoup plus qu'il y en avait eu jusqu'à maintenant. Bon, alors ensuite, que dire aussi par rapport à ça? Quand vous êtes sans papier, vous n'avez pas les moyens de négocier votre prix. Puisque vous vendez, et il y en a qui ne pouvaient pas se vendre à moins de 7-8 euros de l'heure, hein, de travail. Hein. Ils n'étaient évidemment pas à la tâche, puisque on les aurait payés à la tâche, on les était à la mi-journée carrément, ou la journée, on leur proposait, c'était des margoulins, qui leur proposaient sur place, à Épernay par exemple, pourquoi pas 70 euros la journée. Hein, pour 10 heures de travail, voire plus. Camille, on t'entend pas.
Oui, donc c'était plus souvent à moins de 50 euros de la journée.
De la journée, voilà. Donc, en plus, il y en a certains qui se sont fait tellement gruger que ceux qui ont été acceptés n'ont pas forcément été payés.
Alors, avec un rappel, c'est qu'une journée de vendange, c'est pas les vendanges, ça rentre pas dans le code du travail, c'est le code rural, et que les horaires, les heures, c'est plus que 8 heures par jour ou 7 heures par jour.
Ah, plus même, hein. Plus.
Oui, alors, c'est plus.
Ouais, on parle du code rural puisque c'est un code qui a été écrit avant le droit du travail. Hein. Le droit du travail, c'est assez récent, hein. C'est un tout petit peu plus d'un siècle. Et que ce code rural, il a été mis en place à partir du moment où on a eu d'un côté la création d'une fonction publique et de l'autre l'apparition du salariat qui a commencé à grignoter visiter un peu le monde de la paysannerie. Il a été évident que les paysans étant la classe et majoritaire à l'intérieur de la France et de la société, il fallait que les gens reviennent à la ferme pour les moments importants comme les moissons, comme les récoltes, vendanges. Comme les vendanges, etc., etc. Et que donc ce code rural, il a été rédigé à ce moment-là. Ça vous donne des petites particularités. Par exemple, eh ben, on a le droit de prendre des congés payés pour faire les vendanges, alors que normalement, on n'a pas le droit de travailler pendant ces congés payés. Et même les fonctionnaires, qu'ils peuvent prendre des congés, ils peuvent travailler pendant le week-end s'ils n'en ont pas assez, les bougres, de toute façon ils foutent rien, on le sait bien, pendant les vendanges. Et du coup, comme il fait beau, hein, et que c'est la fête, et que ça fait du bien pour le corps, et ben la limitation du temps de travail, qu'elle est pas pareille. Qu'on peut travailler, alors ça dépend, c'est à la semaine, c'est pas à la journée, comme ça on peut avoir des petits rapports, mais on peut travailler jusqu'à 60 heures semaine. Voilà. Donc théoriquement, on est à la disposition du patron 10 heures par jour. Voilà.
Oui, ça peut même aller jusqu'à 72 heures pour certaines catégories de personnel. Donc entre autres les gens qui font le transport des vendangeurs, les gens qui bossent au pressoir et le personnel, là où ça existe, qui fait la cuisine pour les vendangeurs.
C'est ça, ça veut dire 12 heures par jour sur 6 jours avec éventuellement un jour de repos. Alors ça vous donne des choses, par exemple, où vous avez, ça c'était avant parce qu'il y a des normes qui ont été condamnées, mais ça existe quand même encore, les lits de camp qui vont être à côté l'exploitation ou dans l'exploitation à côté du pressoir en gros, et on va dormir quand on peut dormir. Et pourquoi aussi cette tension qui est posée, c'est que le législateur estime que comme c'est du périssable, on a le droit d'outrepasser les limites qui sont imposées. Alors c'est du périssable, ça veut dire qu'une fois que le raisin il est coupé, bon déjà faut le couper d'une part, mais une fois qu'il est coupé, ben faut le traiter. On peut pas le conserver, obligé de le faire. Donc une fois que c'est fait, on peut poser. Alors on imagine un petit peu ce que ça a pu donner, puisque comme on vous le disait en introduction, Toubar et compagnie se frottaient les mains. On sait cette année que le pressoir du Ménil-sur-Oger, de la coopérative du Ménil-sur-Oger. Donc on est dans la Côte des Blancs. C'est vraiment le top niveau de ce qu'on peut faire en raisin et en champagne. On va avoir un kilo de raisin qui va être compris alors cette année, comme il y en avait beaucoup, on va dire plus de 6 euros le kilo en valeur de vente ou en valeur d'achat. Allez, 6,20 €, on va être plus de 6 euros le kilo. On sait que le pressoir de la coopérative de Ménil-sur-Oger, il y en a deux, donc c'est celui dont je parle là. Premier a battu son record historique avec 200 000 kilos de raisins pressés dans la journée. 200 000 kilos.
À la journée ?
En la journée, dans une journée.
Wow.
200 tonnes. Ça représente plus de 1 500 000 € de valeur marchande. Ça représente certainement 20 heures de travail sans discontinuer pour les gens qui étaient là, quoi. C'est incroyable en termes de fric, de moyens, de ce que ça veut dire en mise en place. Mais donc pour ça, il faut que derrière il y ait des gens qui coupent le raisin et du coup qui les coupent dans des conditions que tu décrivais là, mais qu'on n'a pas décrit encore, pardon, mais que l'hébergement, parce qu'il faut les stocker ces vendangeurs, il faut les transporter sur les parcelles, et puis il faut réussir à les tenir et à les faire travailler. Alors, quoi.
Tous les ans, il y a des scandales. Là, je crois que il y en a eu plus que d'habitude. 4. Et au moins 4. Alors, il y a déjà eu, je crois, ça s'est passé à Mourmelon-le-Petit. C'est pas très loin de Reims. Il y avait une centaine de lits de camp. 5 à 6 personnes pouvaient cohabiter dans une pièce de 17 mètres carrés et 3 dans 8 mètres carrés. Les escaliers n'étaient pas éclairés. L'équipement incendie n'était pas fonctionnel. Et des matières inflammables ont même été trouvées dans la cave. Il y avait également dans cet immeuble des fuites de canalisation, parfois à proximité d'installations électriques. La préfecture d'ailleurs a fermé le lieu le 8 septembre, dernier, en soulignant qu'il y avait un gros risque pour la santé mentale compte tenu de la suroccupation et des risques constatés. Donc voilà, c'était à Montmelon-le-Petit, c'est à côté de Reims. Ensuite, il y a eu ce qui s'est passé cette fois-ci sur Épernay, avec des travailleurs ukrainiens qui ont été relogés par leur employeur sur Épernay. Et bon, là aussi, il y avait des gens qui n'avaient pas de papier. Il a fallu que la CGT réclame la régularisation des sans-papiers. Mais surtout, finalement, ça c'est que, parce que la régularisation des sans-papiers, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Ce n'est pas en 10 jours que vous allez l'obtenir, 15 jours. Ce qui va se passer, c'est que par contre, il faut se battre pour que ces gens-là soient payés. Bon. Alors, au niveau des paiements, il faut voir aussi qu'il y a deux types de rémunération. La rémunération à l'heure, qui peuvent être intéressantes lorsqu'il n'y a pas beaucoup de raisins. Et puis, cette année, comme il y avait beaucoup de raisins, la tâche. Alors la tâche, eh ben, c'est dingue, il faut bosser comme un fou, il faut faire le maximum de kilos, et il faut par équipe, hein, ça fait, c'est par des équipes. Alors vous, je ne vous dis pas l'ambiance qui peut régner dans une équipe lorsqu'il y en a un ou deux qui traînent les pieds ou qui vont pas assez vite.
Oui, en plus, bon, effectivement, théoriquement, les vignerons sont tenus à une certaine quantité de raisins. Mais cette année, cette quantité de raisins, elle a été augmentée. Et en plus, ils avaient un droit presque équivalent pour faire ce qu'on appelle de la réserve. C'est-à-dire que on engrange du vin pour les mauvaises années. Voilà.
Oh bah de toute façon, vous inquiétez pas, hein, c'est toujours la fête pour eux. Hein, ils arrivent à trouver des moyens de gratter tout ce qu'ils peuvent gratter. Il faut vraiment avoir des circonstances extrêmement particulières pour avoir des rentabilités qui soient proches du nul, voire négatives. On n'en entend même pas parler, c'est pas possible, quoi. Même lors des années de disette type confinement Covid, il y a toujours eu moyen de s'en sortir. Et la filière, en fait, est totalement auto-organisée et auto-régulée par ces acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que l'autogestion et le socialisme, les patrons, ils l'ont fait, mais que pour eux. C'est-à-dire qu'ils se donnent des règles et des droits et des normes qui s'appliquent de manière extrêmement stricte et autoritaire afin de réguler un marché et d'avoir le contrôle absolu sur ce marché et de l'alimenter de manière extrêmement, j'allais dire presque scientifique, pour avoir une croissance en continu et avoir un revenu qui soit hyper régulier. C'est-à-dire que la libre concurrence, là, pour le coup, elle n'existe absolument pas. Il n'y a pas de concurrence. Il y a une vraie corporation et un vrai lobbying, qui est effectué par les acteurs de la filière champagne et d'une manière générale par les acteurs de la filière viticole et vinicole. Hein. Allez pas vous amuser à faire le kéké avec la picole en France, il y a du monde derrière, ça risque de ronfler. Hein. Il faut aussi rappeler, alors parce que la tâche, c'est devenu une espèce de mythe chez le vendangeur. On s'échange des records ou des sommes qu'on aurait gagnées, des sommes dingues, folles, qu'on aurait gagnées lors d'années dont on ne se rappelle plus. Alors moi, je faisais 150 euros, moi, je faisais 200 euros, gna gna gna, etc. Par jour, hein. Bah oui, tu rigoles. C'était de la folie, c'était ça. Bon, on n'a jamais réussi vraiment à trouver le tâcheron du siècle. Hein. Par exemple, cette année, on a une rumeur où il y aurait un groupe de Vietnamiens qui bosserait pour Veuve Clicquot, qui aurait réussi à sortir une moyenne de 1100 kilos par personne et par jour. Je l'ai pas vu, hein, mais j'ai entendu cette rumeur. Peut-être que c'est eux qui ont abreuvé le pressoir du Ménil-sur-Oger, ça se trouve. Du coup, ils sont contents, ils se sont bien retrouvés. Non, mais pour être plus sérieux, il faut toujours dire que la tâche, c'est hyper réglementé et d'un côté, c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux parce que une fois qu'on a cueilli le raisin, on peut pas revenir sur ce qu'on a fait. Et donc, il faut avoir les conditions et claires dès le départ
pour pas avoir de mauvaises surprises à l'arrivée et ne pas voir que ce qu'on a signé en fait faisait qu'on l'avait dans le baba quoi. Par exemple, dans ma tour, j'ai des gens dont je ne connais pas la situation légale qui m'ont annoncé qu'ils ont travaillé à 11 centimes du kilo. Alors, c'est très très faible quoi, à moins qu'il y ait vraiment énormément de raisins. Alors peut-être qu'il y avait des conditions spécifiques, mais normalement la règle c'est déjà d'une part on peut pas être payé moins que le SMIC oui. en France, d'accord, moins que le SMIC horaire.
Horaire.
D'accord. Donc au minimum vous devez être payé à une journée de travail horaire si vous faites 6, 7, 8, 9, voire 10 heures comme on l'a dit. Donc déjà vous pouvez pas être en dessous. Donc si jamais il y avait pas assez de raisins, vous devez être rattrapé entre guillemets, pour ne pas être là. Ah ouais. Alors ça,
tiens,
va te brosser pour l'avoir. Deuxième chose, l'organisation de la filière, elle est extrêmement scientifique. C'est-à-dire que on a des prévisions, on a des poids, on a des autorisations, on a du litrage, etc., etc., etc. Pour vous donner une idée d'aujourd'hui de ce que ça veut dire la scientificité. En termes de viticulture, on est capable de régler un pressoir pour, en fonction de la qualité du raisin qu'on va mettre à l'intérieur. Selon son degré de maturité, selon plus ou moins mou, plus ou moins mûr, en fait, on va adapter la pression des membranes du pressoir, pour le coup, pour avoir une certaine qualité ou un certain type de jus de raisin. Évidemment, vous imaginez que si on presse fort et d'un seul coup, comme vous faites avec une orange, vous allez avoir un jus qui va être très frais, très puissant, alors que si vous pressez lentement et délicatement, vous allez avoir plus de jus, mais si c'est pas assez sucré, c'est pas bon. Donc voilà, vous voyez où ils en sont au niveau de leur technicité, quoi. En termes d'organisation, ils ont des tables sur lesquelles ils sont capables de revenir plus de 30 ans de chiffres et de statistiques. C'est des fous de la statistique au syndicat général des vignerons. Ils ont des tableaux avec des logiciels spécifiques pour ça. Donc ils savent, à partir du degré d'évolution des grappes et des vignes, combien ils vont avoir de raisins. Combien, quel poids ils vont avoir, quel poids moyen ils vont avoir, quelle quantité moyenne de raisins ils vont avoir. Donc ils font régulièrement des prélèvements pour savoir à peu près qu'est-ce qui va être en prévisibilité. Cette prévisibilité, elle permet aussi à l'ensemble des acteurs qui sont à côté de pouvoir s'organiser pour pouvoir assurer derrière. Nombre de bouteilles, nombre de bouchons, nombre de muselets, nombre de coiffes, étiquetage, etc., etc. C'est un beau machin, hein, c'est un gros truc. Donc, tout ça pour dire que le vigneron, si c'est pas exactement au kilogramme près combien il va avoir dans sa parcelle, il a quand même une idée du minimum et du maximum qu'il va avoir. En fonction de cette prévision, qui doit vous montrer, il va vous annoncer un prix du kilo qui va être en relation de la prévision qu'il va avoir. Pareil, il y a des tableaux, moins de 10 000 kilos à l'hectare, moins de 8 000 kilos à l'hectare, plus de 12 000 kilos à l'hectare, etc., etc. Sachant évidemment que les deux sens s'annulent, c'est-à-dire que moyen de raisin, plus le prix du raisin au kilo, il est élevé. Et enfin, pour terminer, mais il y en a encore d'autres, on pourrait faire des heures et des heures d'émissions, vous avez différents types de services qui vont être demandés. Par exemple, si vous êtes amené uniquement à cueillir le raisin et à le mettre dans des caisses, vous allez être payé moins cher que si vous allez devoir descendre ces caisses en bas de la rangée, si vous allez devoir mettre ces caisses sur le camion et si vous allez devoir amener ces caisses au pressoir. Évidemment, pourquoi ? Parce que on estime que plus vous avez, c'est pas on estime, mais de fait, si vous consacrez plus de temps à la livraison de ce raisin et à sa mise à disponibilité du vigneron, vous avez donc forcément moins de temps pour cueillir le raisin, et donc le raisin doit être plus cher. Donc plus le service est haut, plus le prix du raisin est haut également. Alors que par exemple, vous avez des gens qui vont organiser les vendanges, qui vont recruter du personnel, qui vont eux livrer le raisin à la coopérative ou au vigneron, mais qui vont payer un raisin qui va être amené dans les camions à un prix simplement cueilli. Donc cette différence de 2, 3, 4, 5 centimes, elle va aller directement dans la poche du prestataire ou de celui qui organise les vendanges. Et pour cela, puisqu'il y a de plus en plus de prestataires, ces petites économies de 2-3 centimes, il va être obligé de massifier au maximum, c'est-à-dire de s'engager à prendre un maximum de parcelles pour pouvoir avoir des économies d'échelle et donc des bénéfices et de l'argent. Et quand il va se retrouver en face de gens, ben, soit qui vont abandonner, soit qui vont être en situation irrégulière, soit qui vont pas être capables de travailler ou soit qui vont pas être là, il va aller se retourner vers une catégorie de personnel qui, eux, ne posent pas de questions et fait ce qu'ils ont à faire, en l'occurrence des travailleurs sans papier. Alors on a même vu certaines années, je sais pas si c'est le cas cette année, mais des gens qui montaient la veille à Paris, qu'à les portes de la Chapelle, qui est un lieu de rendez-vous très connu des travailleurs sans papier sur Paname, et qui redescendaient dans la nuit avec des travailleurs, avec des individus qui venaient faire une, deux ou trois journées, peut-être même parfois juste une seule journée pour boucher des trous et tout ça, noyer tout ça dans un flot de non-clandestins, quoi. Ça, c'est le cas.
On va faire une pause musicale.
Bah, je vais...
Vous avez le cutéreux, mais des couilles en or. Vous vivez dans la démesure et vous dégueulez haut et fort. Manquez d'élégance. Et moi la bulle parmi les autres bulles. Montre-moi la surface que je m'y éclate. Et moi la bulle parmi les autres. Sans bâton l'hectare, on peut aimer la terre. Notre salut tombé dans les bras d'une riche héritière. Mais les vilains vignerons les cachent au fond de leur caveau. Nanana, 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 ma fille, ce garçon n'est pas. Champagne! Champagne!
certains d'entre vous ne savaient pas que ce type de groupe pouvait exister. C'était il y a une trentaine d'années, je pense.
Nil, hein, c'est
Nil,
ça
Nil, ouais. Ouais, Nil, un groupe de la région, d'Épernay, entre autres, qui n'existe plus maintenant, mais qui a fait... du bon boulot pendant longtemps.
Les beaux jours des bars.
Oui, non, Jean-Jacques sévit toujours. Alors, il a sévi sous d'autres noms, Casareccio. Là, je sais pas trop où il en est, mais bon, on le voit régulièrement.
D'accord. Alors, justement, on parlait de, au niveau des vendanges, au niveau de l'esclavage qu'il peut y avoir. L'hébergement, ça a toujours été le pire, quoi, parce qu'effectivement... ils veulent absolument pas investir au niveau des vignerons qu'au niveau des grosses boîtes de champagne. Les grosses boîtes de champagne s'en foutent puisque ils délèguent leur pouvoir à des macros qui vraiment font n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire que normalement, par exemple, je prends des tentes. Normalement, il est interdit d'avoir une tente sur son lieu de travail. Mais on peut mettre les tentes à 100 mètres. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que tu as des vendangeurs qui font leur vendange sous les tentes, sans problème. Alors ensuite, au niveau des sanitaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui ont été découvertes par des inspecteurs du travail, qui ont d'ailleurs fait venir les gendarmes, qui ont découvert que, par exemple, dans une grande bâtisse à étages, le 18 septembre, il y avait 18 vendangeurs, pour la plupart d'origine bulgare, qui vivaient là dans des conditions complètement désastreuses. C'était à Cuisse. Ensuite, il y a eu à Charly-sur-Marne. Ouais.
C'est à côté de Château-Thierry.
L'aire d'accueil sur laquelle les vendangeurs issus de la communauté des gens du voyage doivent s'installer avec leur famille pendant les vendanges, ça a créé une polémique parce que les viticulteurs et les vendangeurs ont déploré évidemment l'état et son manque d'hygiène. C'était terrible, il y avait des odeurs liées à la proximité de la station d'épuration, parce que ils peuvent être logés n'importe où. Et quand on vous dit n'importe où, on peut les mettre carrément à côté d'un truc qui pue.
C'est des chiottes.
C'est vraiment, c'est incroyable. Alors après, avant qu'on se quitte quand même, ce qui est important de comprendre, c'est que il y a peu de gens vraiment, sauf peut-être certains syndicats, il y a peu de gens qui posent les problèmes des responsabilités. C'est-à-dire que ceux qui se font prendre et qui peuvent être effectivement poursuivis pour traite des êtres humains et être punis par de l'emprisonnement, mais ça c'est théorique, hein. 7 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, ouais, ça c'est théorique. N'empêche que bien souvent, la plupart du temps, les procès traînent en longueur, et puis les véritables responsables ne sont pas là. C'est-à-dire que c'est pas LVMH que vous allez retrouver en justice. C'est bien évidemment les sous-traitants, quoi.
Sauf, il y a eu un procès où il y avait un responsable d'une grande maison de champagne qui était là, mais c'est le seul qui a été relaxé.
D'accord. Il y est pour rien, lui, de toute façon. Hein. C'est lui qui empoche le fric.
Ben, il y est pour rien, mais il a forcément, si il a pas l'ensemble de la chaîne, quoique sur le procès de 2020. Alors, pour cette année, hein, on le répète, donc c'est 5 morts, 4 plus 1, plus 2 enquêtes pour traite et trafic d'êtres humains qui ont été déclenché avec le pompon, on peut dire, à Nesle-le-Pont, où une cinquantaine de travailleurs d'origine sénégalaise, malienne et mauritanienne, tous en situation irrégulière, ont été découverts dans des logements de fortune. On n'a pas encore tous les éléments, mais il semblerait que certains d'entre eux aient bossé pour Mouet et Chandon. Donc bon, on verra bien ce que les enquêtes vont donner, mais le procès donc qui avait eu lieu en juillet 2020, qui avait concerné 77 personnes qui avaient été embauchées par une société qui s'appelait Rajviti, fondée à Montbré par des gens, des Sri Lankais, qui avaient trouvé leurs victimes parfois devant des CAO, centres d'accueil et d'orientation des migrants.
Ouais.
Ce procès, il a impliqué deux autres donneurs d'ordre qui étaient la SARL, donc des prestataires qui s'appellent Viti Chenille et Serviti, qui sont des boîtes plutôt connues, qui existent encore, hein, donc qui n'ont pas été dissoutes à l'issue de ce procès. Et enfin, en troisième hauteur, troisième étage de la fusée, le responsable prestation des prestataires chez le VCP. Alors, pas le responsable absolu, mais le responsable pour ce secteur-là. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est que le prix demandé ou exigé par VCP, par ce prestataire, par ce donneur d'ordre, pardon, par ce salarié de VCP, était tellement bas qu'il allait avoir une répercussion à la fin. Que si chacun prend 1, 2 ou 3 centimes à chaque étage de la fusée, forcément, à la fin, il reste que dalle pour celui qui cueille des raisins, quoi. Donc, une donnée principale, c'est effectivement de regarder combien payent les donneurs d'ordre et d'exiger que ce tarif il soit relevé. Mais ça, c'est pas suffisant parce que ce scandale, donc rappelons, les vendanges elles ont commencé le 5 septembre officiellement, hein, même si on a connu des dérogations. Dès le premier week-end, on a vu que ça était en train de partir en couille en termes des températures. Est-ce qu'il y a eu à un moment la préfecture qui a dit on arrête? Est-ce que le SGV a dit on arrête? Est-ce qu'il y a eu des messages qui ont été donnés? Nous, on a tous les ans un joli défilé de gendarmes de la garde républicaine qui viennent faire les kékés à cheval pour les touristes, et même des drones pour venir contrôler si ça travaille correctement. Est-ce qu'on a eu des gens qui sont passés dans les vignes pour nous informer de ce qu'on a le droit? Rappelons que l'inspection du travail dit que à partir de 28 degrés, c'est déconseillé de travailler dehors, et à partir de 32, ça devient dangereux pour la santé. Vendredi 8 septembre, ça a été mesuré à 34. Dimanche 10 septembre, je vous le répète, ça a été mesuré à 36. Donc, c'est pas après qu'il faut venir chialer et venir protester et dire que c'est scandaleux, comme le font Toubar et Châtillon, et même comme le fait Madame Duménil de la CGT. Alors, historique, hein, il y a eu un rassemblement devant le SGV d'une centaine de personnes de la CGT pour venir protester. C'est déjà assez exceptionnel pour être souligné. Mais c'est toute l'année, et c'est avant qu'il faut venir informer et venir travailler pour que les travailleurs des vignes, qui sont une catégorie essentielle, totalement essentielle à l'économie de cette région et même à l'économie du pays, qui se gèlent le cul au mois de janvier pour tailler les vignes et qui vont crever de chaud l'été pour faire le palissage et les vendanges, eux, ils ont besoin d'avoir de l'information régulière et un encadrement et de quoi pouvoir se reposer. Et on pourrait imaginer tout un tas de choses, parce que là, il va y avoir des rendez-vous et des tables rondes, hein, on aime bien ça, hein, faire de la chose. Il est même fort probable que le syndicat général des vignerons se constitue partie civile, et même la CGT se constitue partie civile, peut-être qu'ils récupéreront quelques menus monnaies, ça leur permettra de continuer à entretenir leur permanent. Mais nous, dans les vignes, on va pas être avancé d'un iota. Alors il y a des propositions, il y en a quelques-unes, hein, c'est très simple. Hein. On sait par exemple, pour ceux qui ont déjà travaillé dans le bâtiment et les travaux publics, qu'on a des congés intempéries, j'allais dire intermittents, qu'on a des congés intempéries. Forcément, à certains moments, nous aussi, il faut qu'on aille travailler parce qu'on a besoin d'argent. C'est le fameux liberté du travailleur, vous savez, c'est la différence entre l'esclavage et le salarié. C'est que le salarié, lui, il veut bien venir. L'esclave, lui, il est obligé. Le salarié, lui, il est obligé de venir pour avoir son salaire, mais il a le droit de pas venir. Donc, on pourrait imaginer tout à fait ce type de congé intempéries, c'est-à-dire une petite cotisation prise sur le salaire, à partie égale entre l'employeur et le travailleur, et venir dire là j'utilise mon congé intempéries parce qu'il fait trop mauvais, parce que etc etc. On pourrait aussi imaginer des listes qui soient renseignées, qui soient publiques, c'est-à-dire que avoir une liste de prestataires qui travaillent correctement et qui ont été contrôlés. Vous avez tout un tas de labels qui sont donnés au champagne, aux viticultures, HVE, VDC, bio, agribio, HVE 1, 2, 3, 4, VDC, etc. Par contre, en termes de qualité du travail, vous avez rien du tout, rien que dalle de chez que dalle. C'est-à-dire que vous avez juste le droit d'essayer d'avoir des informations par la bande et par ceux qui savent. Et puis, ben, forcément, quand vous avez des gens qui se font attraper, ben, il faut les cartonner, il faut un fonds d'indemnisation pour que les gens ils soient capables, un fonds d'indemnisation qui soit abondé par les maisons de champagne pour que les gens qui se fassent gruger soient sûrs de repartir avec quelque chose. Parce que c'est pas seulement... on va dire de l'exploitation et de la saloperie patronale de bourgeois d'employés des travailleurs clandestins, c'est aussi à la fin un énorme coût pour la collectivité, puisque sur les 77 vendangeurs sur le procès de 2020, avec la société Rajviti, on a imaginé que c'était un préjudice de plus de 95 000 euros pour la MSA en termes de cotisation, de trucs, etc., etc. Ça, c'est pour 77 personnes. Donc, si c'est reproduit, on va dire, ne serait-ce qu'une centaine de fois à l'intérieur du vignoble, ça fait des millions et des millions. Donc, des sous qui sont pas là pour la retraite, pour l'indemnisation des gens, ouais, pour le chômage, etc., etc., etc. Et ben, toute cette architecture de l'exploitation viticole, il faut aussi qu'on puisse la publiciser. C'est-à-dire que les gens qui viennent et toute la partie œnotourisme qui se développe depuis aujourd'hui 5-6 ans, depuis la classification des vignes et des maisons de champagne au patrimoine mondial de l'humanité et de l'UNESCO, ils ont aussi, ils ont peut-être classifié à l'intérieur du patrimoine l'esclavage, hein, qui est aussi une donnée immatérielle et une culture extrêmement répandue dans l'humanité et qui visiblement fait partie aussi des traditions locales, puisque tous les ans, on arrive à en trouver 2, 3, 4, et vous imaginez même pas ce qui passe à l'intérieur des trous énormes de la passoire. Moi, je crois, ça fait un peu plus de... j'allais dire depuis toujours, mais alors depuis 25 ans que je fais les vendanges, et un peu pas, enfin voilà, je n'ai jamais vu un inspecteur du travail. J'ai vu les flics, j'ai vu les gendarmes, je n'ai jamais vu un syndicaliste ni un inspecteur du travail venir me voir et me demander comment ça se passait. Les seules choses que j'ai pu voir ou faire sont été de manière extrêmement ponctuelle de l'information en plusieurs langues sur les tarifs, le prix de la main d'œuvre, le minimum de droits, etc., etc. Mais c'était d'initiative autonome. Sur ce, sur le deuxième point, voilà. Donc bon, alors moi je veux bien hein, la CGET hein, qui va faire des tables rondes, mais tant qu'il y aura pas une, tant que les vraies questions elles sont posées, qui fabrique et où va le fric, bah, de toute façon on tournera en rond quoi. Alors les seules choses qu'il y a, c'est que là on a parlé que des choses un peu trash, des morts et des gens qui se font exploiter, c'est que parfois le rapport de force, il s'inverse, parce que quand le travail est dur et que vous avez des saisonniers qui sont là et qui sont durs et qui se font gruger, en général, ils règlent leurs problèmes eux-mêmes. Et si on entend des légendes sur des gens qui se font gruger ou des gens qui se font mal payer ou qui meurent, on a aussi de très belles anecdotes sur des gens qui sont allés chercher et réclamer leur dû, à qui de droit et comme il fallait le faire, c'est-à-dire que les rapports de force ils sont aussi très très bruts et que des fois ça marche. Alors la seule chose qu'on aimerait bien et qu'on pourrait espérer, c'est que prendre conscience que sans nous les travailleurs de la vigne, tout ça ça n'existe pas. Ouais. Et que en fait le rapport de force il est de notre côté, puisque c'est du périssable et que une fois que le raisin il est coupé ou si le raisin il est pas coupé, ils peuvent pas le faire tout seul. Et même si bien sûr il y a énormément de gens qui attendent derrière pour prendre les places qu'il y a, et il y aura toujours évidemment des gens pour venir travailler parce que il y a des gens qui ont besoin de fric, et quand on n'est pas regardant comme ça sur la main d'œuvre, et ben on prend tout le monde. Évidemment qu'on se fera placer, mais il y a vraiment moyen de créer des rapports de force très très intéressants. Et d'ailleurs, la CGT le sait très bien, puisque à plusieurs reprises, juste avant les périodes des vendanges, les gens qui ont entre guillemets les moyens de faire grève dans les maisons de champagne savent très bien dealer, savent très bien mettre en avant leurs revendications pour pouvoir aboutir à un statut un peu mieux que ce qu'ils étaient auparavant. D'ailleurs, le patronat l'a très bien compris parce que aujourd'hui, l'automatisation la mécanisation du travail de caviste et du travail en maison de champagne est arrivé à un point hyper hyper important pour pouvoir justement se passer de cette main d'œuvre qui est problématique. Malheureusement ou heureusement pour nous, je sais pas, il y a une partie du travail qui ne pourra jamais se faire à la machine. C'est le cas des vendanges, du ramassage des raisins et d'autres type de travaux dans les vignes. C'est aussi le cas, c'est aussi dû à une organisation du travail, une organisation de l'économie champenoise qui fait que les petites structures ne peuvent pas acquérir ce type de machinerie. Et donc, il faut qu'on se remette dans la tête que c'est nous qui avons le vrai pouvoir. C'est nous, les travailleurs, qui travaillons et qui faisons ce putain de champagne. Et donc, c'est nous qui avons le droit de dire comment on peut et comment on veut être payé.
On te remercie, c'est super.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Côtes d'Igarigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.
Radio Primitive, la radio associative.